Merci pour la prière qui demande au Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences pour entendre sa parole. Nous allons parler de la grâce. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes créés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et en introduction, je vais lire un texte de Charles Spurgeon. Alors, je l'ai prononcé à la française, désolé. Hein. La grâce aux mille facettes. Et voilà la manière dont lui voit la grâce, enfin, les réflexions que lui suscite la grâce. Voir un grand fleuve surgir tout formé du sol nous étonnerait. Qui peut concevoir une source gigantesque d'où sortiraient d'un coup tous les fleuves de la planète? Tous les fleuves de grâce ici-bas et de gloire dans l'au-delà coulent pourtant de l'amour de Dieu. Devant cette fontaine sacrée, mon âme adore et exalte à jamais le Père Céleste qui nous a aimés. Au commencement, avant que la lumière n'embrase la nuit, quand cet immense univers, comme la future forêt dans le gland, dormait encore dans la pensée du Créateur, Dieu aima ses élus. Avant la création de l'espace et de la vie même, à l'époque où seul Dieu existait, dans le calme profond de l'immatériel, le nom de ses élus figurait sur son cœur et son âme les chérissait. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Puis, quand les temps furent accomplis, il vint me racheter par son sang, avant le moindre mouvement d'amour de ma part. Ne le rejetais-je pas quand il s'approcha de moi au début? Ne le renvoyais-je pas en méprisant sa grâce quand il frappa à ma porte? Je m'en souviens très bien. Mais enfin, par le pouvoir de sa grâce efficace, il déclara « Je dois entrer, je vais entrer ». Il transforma alors mon cœur et me disposa à l'aimer. Si sa grâce n'avait accompli son œuvre en moi, je lui résisterais encore. Mon Sauveur me racheta quand j'étais encore mort dans mes péchés. La logique m'oblige à en déduire qu'il m'aima le premier. Aurait-il pu mourir à cause de ma foi si je n'étais pas encore née? Ma foi aurait-elle suscité son amour envers moi? Nullement. Mon Sauveur mourut bien avant que je ne croie en lui. Et je trouve très beau ce texte. Il y a plusieurs images dedans et qui nous montrent que la grâce, le cadeau, la vie qu'il nous donne, tout cela est basé sur son amour qui existait de toute éternité. Et il y a plusieurs images dans ce texte. Il y a déjà l'image du fleuve, un fleuve gigantesque, ou même, là il parle d'une source gigantesque d'où sortiraient tous les fleuves de la planète. Et tous les fleuves de grâce, la grâce qui nous a touchés chacun, qui peut toucher tous les hommes qui croient en lui, ben cette grâce coule de l'amour de Dieu. Et j'aime bien le chant « Torrent d'amour et de grâce ». Voilà ce torrent d'amour qui se déverse. Et une autre image, celle de la future forêt dans le gland. Alors, mon papa, quand j'étais ado, il a planté une noix. Enfin, il en a planté trois. Et maintenant, ce sont trois arbres bien plus hauts que la maison et qui donnent des noix chaque année. Et beaucoup de noix. Et oui, c'est dire que cette noix, cette chose finalement que l'on mange, dont on ne pense pas à tout ce qu'il y a dedans, peut donner un arbre, et ces arbres peuvent donner d'autres arbres. Et oui, comme la future forêt dans le gland, donc là c'est pas un noyer, mais l'image est la même. L'immense univers dormant encore dans la pensée du Créateur, et à ce moment-là, Dieu aima déjà ses élus. Avant la création de la vie même, à l'époque où seul Dieu existait, le nom de ses élus figurait sur son cœur. Voilà, même avant d'avoir créé l'humanité, il nous aimait. Alors c'est la vision de Charles Spurgeon, et mais on retrouve cette notion aussi dans la Bible quand on lit le psaume 139. Je n'étais qu'une masse informe et vide, mais déjà ton œil me voyait, ton regard s'apesantissait sur moi. Tu as formé mes reins. Il nous connaissait avant que l'on soit conçu. Il nous connaissait dans le ventre de nos mères. Et il nous connaît maintenant et de toute éternité, il nous aime. Nous allons lire Romains 5, versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien ? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, on retrouve l'idée de ce qui a été lu tout à l'heure. Dieu, il n'a pas attendu qu'on soit aimable. Il n'a pas attendu qu'on l'aime. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait. Il est mort pour nous. Comme dit Spurgeon, la logique nous oblige à en déduire qu'il nous aima le premier. Ce n'est pas à cause de notre foi, de nos œuvres, de tout cela qu'il est mort. Ce n'est pas pour cela qu'il a choisi de sauver l'humanité et de nous sauver. Non, bien avant, il y avait ce plan éternel d'amour, de salut, de rédemption. Alors, Charles Spurgeon, lui, croyait à la prédestination. Alors, c'est pour ça qu'il a insisté sur le fait que c'est Dieu qui est venu le chercher. Et quand on voit quand il dit au début qu'il avait renvoyé Jésus quand il avait frappé à la porte, mais que par le pouvoir de sa grâce efficace, Jésus déclara « Je dois entrer, je vais entrer » et ainsi il transforma son cœur. Il veut dire que ce n'est pas lui qui a fait quelque chose, mais Jésus qui a insisté et qui est venu. Et bon, on a parfois l'impression, quand on lit ce qu'il a écrit, que Jésus a forcé un peu. Mais Jésus ne nous force pas. Dans Apocalypse, il est dit « Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et j'entrerai chez lui. » Il ne va pas forcer la porte, il ne va pas casser la serrure, il ne va pas rentrer de force si on ne le veut pas. Mais il frappe. Et parfois, il frappe avec insistance et il frappe longtemps. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas vouloir ouvrir à quelqu'un qui insiste et qui insiste. Voilà, bah, au bout d'un moment, on hésite, mais on a toujours le choix. Et parfois, on n'ouvre pas quand même. Et Jésus respecte cela. Mais n'empêche que voilà ce qu'il souhaite, c'est qu'on lui ouvre la porte. Alors c'est vrai que par rapport à la prédestination, que quand on y pense, il est parfois surprenant que dans un même contexte, avec un même enseignement, certains croient et d'autres ne croient pas. Certains auront entendu parler de Dieu toute leur vie, mais ne donneront jamais leur cœur à Jésus. Et à l'inverse, Jésus, on a été en chercher d'autres dans des lieux improbables, là où ils n'avaient jamais entendu parler de lui, au plus profond de ce que nous appellerions la perdition si on regardait avec nos yeux humains. Pourquoi l'un et pas l'autre ? et c'est un mystère qui n'appartient qu'à Dieu. Et je me garderai bien de théoriser à ce sujet, donc je ne vais pas vous faire un cours sur la prédestination, mais poser une question. Cela signifie-t-il que la grâce n'est pas pour tous ? Le fait que certains choisissent et d'autres pas. Si Dieu restreignait la grâce à des élus, à la manière dont nous pourrions comprendre parfois ce terme, il n'aurait pas eu à chercher loin. Après tout, il avait déjà choisi un peuple, via Abraham, Isaac et Jacob, le peuple d'Israël. Et tous les autres peuples, regroupés sur le terme générique de nation, était considéré comme mauvais, à ne pas fréquenter, voire à détruire. Il aurait pu limiter sa grâce à ce peuple. Ça paraissait logique quand on lit l'Ancien Testament. Oui, il y a un peuple élu, le peuple d'Israël, et je limite ma grâce à ce peuple. Et d'ailleurs, même Jésus a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël ». Alors on ne s'attend pas à ce que Jésus dise « Non, non, moi je ne suis venu que pour le peuple d'Israël ». Mais alors comment se fait-il que nous sommes là, nous, des chrétiens, je pense pour la plupart non-juifs, au XXIe siècle, comment avons-nous pu bénéficier de cette grâce si Jésus n'est venu que pour le peuple d'Israël ? Et je vous invite à lire Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui criera : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est dur, hein, il se fait traiter de chien quand même. Hein, c'est... « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Et c'est un texte qu'on lit pas si souvent, et en fait j'avoue que je ne sais même pas comment je suis tombée sur ce texte en préparant. Ça interpelle, j'avais jamais perçu que Jésus avait dit qu'il n'était venu que pour Israël et que cette femme, par sa foi, a été quémandée un petit morceau de grâce. Et c'est quand même un passage qui change beaucoup de choses dans la perception. Les disciples n'ont pas dû le comprendre tout de suite. Oui, les autres peuples ont aussi accès à la grâce. Jésus a étendu la mission pour laquelle il était venu, il l'a étendu au reste de l'humanité. Alors l'élection, la prédestination n'est pas une raison pour ne pas croire en Dieu. Oui, il y a quelque chose de mystérieux, certains croiront, d'autres pas, ça c'est dans les mains de Dieu. Mais en tout cas, nous, à titre personnel, on ne doit pas trouver une excuse en disant « Non, moi je ne crois pas, je n'ai pas été choisie ». D'ailleurs, on n'en sait rien. Et même cette femme qui a priori n'a pas été choisie a quand même été quémandée ce petit morceau de grâce. Alors, ce n'est pas une raison de ne pas croire en Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Quiconque, tous peuvent croire en lui, tous ceux qui le veulent. Si tu es quiconque, Jésus est mort pour toi et tu as accès à la vie éternelle. Romains 9, versets 24-25. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Le peuple de Dieu étendu à tous les croyants. Alors ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Nous ne pouvons pas acheter le salut. Mais Dieu utilise notre foi pour nous faire participer à sa grâce. Il n'est pas demandé une grande foi, une foi exceptionnelle. Un grain de moutarde suffit. Même une foi aussi fragile que celle de l'homme qui disait dans l'Évangile « Je crois bien au secours de mon incrédulité, cette foi est suffisante. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le père de l'enfant qui tombait dans le feu et l'eau. Et puis Jésus lui dit « Crois-tu ?» Et la seule chose qu'il dit « Je crois, mais en même temps je ne crois pas, alors viens m'aider à croire. » Voilà, c'est juste ce petit minuscule morceau de foi qui dit « J'aimerais être en foi, aide-moi. » Ça suffit. Dieu a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Il n'est pas trop tard pour faire ce choix. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Un don gratuit que l'on peut juste prendre. Mais si on le laisse par terre, c'est dommage. On peut juste le prendre pour nous, un cadeau gratuit. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Cette grâce étendue à tous les croyants qui peuvent devenir membres de la famille de Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous avoir aimés de toute éternité, de nous avoir gravés sur ta main, d'avoir gravé nos noms sur ta main, comme c'est dit dans les psaumes, d'avoir voulu le salut de l'humanité. Merci de nous donner l'accès à ton peuple, à tes élus, même si nous ne le méritons pas. Merci pour le mystère de la grâce qui nous dépasse. Et nous voulons aussi reconnaître nos limites dans la compréhension. Et nous à aussi voir les autres avec ton regard de grâce, à ne pas juger en disant celui-ci mérite ou celui-ci ne mérite pas. Mais tu as fait grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Alors oui, Seigneur, nous voulons maintenant aussi te demander de nous bénir et de nous accorder ta grâce. Tu disais à ton peuple de prononcer cette bénédiction, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il vous accorde sa grâce. Oui Seigneur, merci vraiment pour ce cadeau, pour cette espérance, pour cet amour. Amen. Amen.